Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot, dont le programme est chargé, très chargé, même pour un mardi. La dame n'est pas là et pourtant nous allons parler Brésil, enfin d'un Brésilien à la une aujourd'hui de l'hebdomadaire France Football. La chose est rare, interview de Neymar, 8 pages, bon, beaucoup de photos quand même, hein, et des phrases choc. Pourquoi vouloir partir d'ici? J'ai 2 ans de contrat et l'équipe progresse. Ou encore, je ne joue jamais pour être numéro 1. Un grand joueur, c'est quelqu'un qui rend facile les choses difficiles. Vous avez 2 heures. Ou encore la spéciale réfé. On devrait créer un ballon d'or rien que pour Messi. Autrement dit...
Destiné, on était tous les deux destinés.
Entre super menteur et super dragueur, Neymar, ce hableur, ce charmeur. Habib Bey, bonjour.
Bonjour, Olivier Pron.
Dragueur, charmeur, pas du tout vous en somme.
Si, si, un petit peu.
Quand même. Hein.
Vous savoir le reconnaître.
Vous l'avez lu l'interview?
Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu toutes ces phrases choc et j'ai vu...
Vous avez lu l'essentiel,
donc. C'est commenté partout sur les réseaux sociaux, donc vous voyez quand même un bon relief de ce qu'il a dit.
La dame n'est pas là et pourtant ensuite nous parlerons de Ronaldo, de la Juve et de la Serie A de l'Italie. Quoi, le Portugais a certes marqué 2 fois pour permettre à la vieille dame de battre l'Udinese et de repasser en tête aux dépens de l'Inter. Mais son influence, Ronaldo, semble moins importante cette saison. Question d'âge, 34 ans, de schéma tactique avec Sarri. Ça vous parle, Étienne Moati?
Oui, ça me parle. Enfin, j'entends ça tous les ans, toutes les saisons. Donc, au mois de novembre, décembre, on commence à évoquer des choses comme ça. Puis, on se rend compte qu'au printemps, en général, il est décisif partout où il va jouer. Donc, franchement, je ne crois pas une seconde à ça.
Ah bah, très bien. Ça, c'est un débat qui est bien, bien lancé. On parlera aussi de la Lazio renversante hier face à Cagliari. 3e, la Lazio en embuscade derrière la Juve et l'Inter. Après tout ça, ça redémarre comme la chenille. Direction l'Allemagne et la Bundesliga, un championnat plus attrayant que jamais, 5 équipes en 6 points en tête. Et ce mardi, le 3e Dortmund qui accueille le nouveau leader Leipzig. On dirait un 8e de Ligue des Champions. Pas vrai, Charles Guémour?
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, un peu, ouais. Ça se resserre au sommet de la Bundesliga.
C'est le championnat voisin de celui qui vous plaît tant, mais c'est pas mal la Bundesliga cette année.
D'autant plus que je l'ai regardé un peu ces temps-ci, ouais. Il y a beaucoup de buts, toujours.
Tant bien, on a bien fait de vous inviter alors.
On va parler des défenses.
Pour terminer un peu de Ligue 1, hein, faut reconnaître que chez nous c'est pas tout à fait un produit d'appel, pas comme chez Mediapro l'année prochaine. La Ligue 1 donc pour causer du prodige du moment à la une de l'équipe ce matin, le franco-congolo-angolais Eduardo Camavinga, 17 ans, toutes ses dents, milieu à Rennes, cible dit-on du Real Madrid, estimé à 100 millions d'euros, le football circus n'en finit pas. À Rennes, à la rue, en Ligue Europa, à la chasse au podium dans notre championnat. Bon bah voilà, pas le temps de niaiser avec tout ça, Laurent Salerno est là, Mam aussi, alors on y va. On ne se lasse pas de ce générique. Avec les voix, s'il vous plaît, de David Finzel et de Souhel Khedir, pour ceux qui les connaissent, qui entendent leur nom, vous savez maintenant qu'ils chantent aussi ce merveilleux générique. Alors, cette interview du Ney, 8 pages, on l'a dit, un coup de com', mais pas que, ou alors juste de la com', et une sincérité proche du néant. Shérif, je vous ai vu le lire à mon bureau même, et vous l'avez lu en 10 minutes, soyons honnêtes.
Mais j'avais lu les reliefs, comme dirait Habib précédemment. Oui, il y a une part de com', évidemment, on est en fin d'année, il fallait faire le point, il a offert le ballon du penalty à Cavani, donc là maintenant il s'étend un peu dans sur les médias, sur la Bible du football. Il y a quand même des accents de sincérité, c'est quand il parle de ses blessures, ça l'a vraiment marqué, ça l'a diminué, parce que quand il dit qu'il regarde la cérémonie du ballon d'or à la télé, alors qu'on sait que ces dernières années il était quand même l'un des concurrents à cette distinction... La sincérité, elle est là. Et la question que je me posais quand je l'ai lu, c'est est-ce que je pense que ses désirs de départ sont toujours là? Je pense. Mais après, il y a des choses qui sont en train de changer. Sur ce que j'ai vu récemment de Neymar sur le terrain, il défend, il attaque, il s'implique vraiment. On sent qu'il y a maintenant une liaison qu'il est en train de mettre au point avec Mbappé. Et je me demande si, pour la première fois depuis qu'il est à Paris, il ne se pose pas la vraie question, à savoir, est-ce que je peux gagner éventuellement la Ligue des Champions avec Paris ? Je pense pas qu'il le pensait avant, ou alors il le pensait pas fort. Et là, du fait qu'il y a une équipe, des gens se trouvent, surtout là sur la nouvelle formule en 4-4-2, il est en train de se passer quelque chose à Paris, sur le terrain, moi, qui me plaît, et dont il est l'instigateur. Je dirais donc qu'il y a une part de com, et puis d'un autre côté, il y a une, je sais pas, une prise de conscience, un feeling nouveau, je sais pas. Les semaines arrivent, nous le dirons.
Je sais pas si vous le savez pas, mais je vous ai jamais entendu parler autant dans l'émission d'un coup. Hein.
Parce que ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Quand il parle de ses blessures, ben voilà, c'est... Voilà, il n'était pas habitué à être blessé aussi longtemps et aussi souvent. Ce qui arrive à Mbappé aussi. Et Mbappé s'est mis à douter à partir du moment où il a commencé à être blessé.
Donc Habib, ça joue. Ça vous inspire quoi, cette interview du Ney ?
C'est inspiré par le fait que depuis 2 ans, il est absent en quelque sorte dans les sphères du football mondial. Première année, il y a 2 ans, c'est 14-0.
Ah, mais il nous dit la place de numéro 1, ça m'intéresse
oui,
pas.
Oui, hein. mais à un moment donné, ils ont de l'orgueil. Ce sont des joueurs qui veulent compter. Même s'il dit ça, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, Messi, Ronaldo ont été au-dessus de lui et qu'il n'est pas encore dans cette galaxie, même s'il en a le talent. Il y a 2 ans, il est 14e au Ballon d'Or. Cette année, il n'est même pas nominé. Il n'est pas dans les 30 premiers. Donc, je pense que ça joue pour un joueur qui a cet orgueil-là et qu'il est dans l'obligation. C'est ce que j'avais dit. Moi, je pensais que la meilleure chose pour Neymar, c'était justement de ne pas partir du PSG. Et que du coup, il se retrouve dans une situation où il est obligé de performer. Il ne peut pas se permettre une 3e année d'être le relief d'un joueur exceptionnel au Paris Saint-Germain. Parce que depuis qu'il est arrivé, même si ses stats sont exceptionnelles, personne ne peut dire que Neymar a marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain dans les grandes compétitions. C'est-à-dire que s'il venait à quitter le PSG, on parlerait de lui comme on a parlé de Ronaldinho. C'est-à-dire que c'est un ovni qui est passé, un joueur exceptionnel. A-t-il laissé une empreinte ? Pour l'instant, non. Et la seule façon pour lui de laisser une empreinte, si même il veut partir au Barça en fin de saison, c'est justement de marquer cette saison du PSG et de faire en sorte que le PSG passe un cap en Ligue des Champions, éventuellement la gagner, parce que de toute façon, aujourd'hui, bah, tout est ouvert. Hein, dans un... Comme ça, hein, lorsqu'on voit ces 8e de finale, on se dit que...
Au moins jusqu'au printemps, quoi.
On se dit que Paris a la qualité. Si Liverpool a fait finale et victorieux de la Ligue des Champions, c'est que Paris a le potentiel. Peuvent-ils le faire ? Je ne sais pas, personne ne sait, mais Neymar doit marquer de son empreinte cette saison s'il veut laisser une marque au Paris Saint-Germain.
T'as vu du changement ou pas chez Neymar sur le terrain ?
Est-ce que vous pourriez laisser juste Étienne Moati donner son point de vue
Je l'ai vu un petit peu, bien sûr.
Monsieur Moati ?
Oui, moi je pense qu'il ne faut pas complètement exclure que Neymar finisse par se rendre compte qu'il n'est pas si mal que ça au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Neymar au Paris Saint-Germain, on l'oublie quand même un peu vite, il a un contrat qui est un contrat pharaonique, il touche 36 millions d'euros par an. Il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde, voire quasiment aucun, où il pourrait toucher ça aujourd'hui. Ça compte quand même un petit peu pour lui. Quand vous regardez l'effectif du Paris Saint-Germain, lui, il le regarde, il joue avec eux toutes les semaines, il s'entraîne avec eux. Quel est l'effectif en Europe ? Quel est le niveau de l'effectif du Paris Saint-Germain ? Il n'y en a pas beaucoup non plus. Quand il a passé donc l'été dernier, où il était sur le marché des transferts, où il y a eu des contacts clairs avec le Barça, où les dirigeants du Paris Saint-Germain ont ouvert la porte, est-ce que le transfert s'est fait ? Non. Pourquoi est-ce qu'il se ferait davantage l'été prochain ? Il n'y a pas de garantie du tout. Donc aujourd'hui, Neymar, il se dit, je suis dans une bonne équipe, je suis très bien payé.
C'est nouveau,
ça,
je pense.
J'ai un propriétaire qui me paye sans aucun problème tous les mois. Et finalement, je veux dire, à Paris, il y a des aéroports aussi, on peut bouger un petit peu là où on veut. Je vais peut-être réfléchir un peu, essayer de faire une bonne saison.
Il nous confirme quand même qu'effectivement, il a voulu partir l'été dernier.
Il aurait été un immense menteur s'il disait « j'ai jamais voulu partir ».
Mais il dit quand même « car il n'était pas heureux ». C'est très très clair. Donc il est redevenu heureux ou alors simplement...
Non, mais parce qu'il avait l'idée, qu'il pouvait aller au Barça. Est-ce qu'il est allé au Barça ? Non, il n'est pas allé au Barça. J'ai dit, tout était réuni l'été dernier pour qu'il y aille. Qu'est-ce qui serait réuni davantage l'été prochain pour qu'il aille au Barça ?
S'il fait une grande saison.
S'il
fait une grande saison.
Non, mais la synthèse de ce qu'on dit tous les trois, on se rejoint sur une prise de conscience qu'il n'est pas si mal à Paris, que l'équipe n'est pas si mal. Et surtout, quand on regarde les autres effectifs, les autres équipes, je suis d'accord, le Barça, ça fait plus rêver. Enfin, évidemment que le Barça fait rêver, mais ils sont en difficulté comme ils l'ont rarement été. À mon sens, je dis pas qu'ils vont faire une mauvaise saison, mais bon... Le Real, c'est en reconstruction.
Au Barça, Antoine Griezmann, quand il a signé, il a été obligé de baisser très sensiblement son salaire par rapport à l'Atlético. Aujourd'hui, Neymar, au Barça, il ne toucherait pas ce qu'il touche au Paris Saint-Germain. C'est quand même une donnée importante.
Et footballistiquement,
aujourd'hui, à Paris, il y a quelque chose. Alors évidemment, c'est la suite de la saison qui va nous dire ce qui va se passer. Parce que, évidemment, s'il y a un échec encore en 8e de finale, on en reparlera de manière extrêmement différente.
Oui, surtout qu'on rappelle que ça tombe pile au moment encore où il y a un anniversaire dans la famille. Qu'en garder de cette interview
Il a pris date.
Garder qu'il est dans la com. mais que par exemple, ce qu'il a fait pour le penalty de Cavani, à partir du moment où on a fustigé son comportement il y a un an lorsqu'il ne lui a pas donné le ballon, on peut pas aujourd'hui ne pas reconnaître le geste. On sait que c'est de la com, tout le monde est conscient de ça, que Mbappé est venu le voir en disant « bon, apaise les tensions, Cavani doit marquer, c'est très très bien pour le groupe ». On sait très très bien que c'est de la com, mais moi je trouve que c'est un geste symbolique, mine de rien, qui ancre quelque chose sur le fait qu'à un moment donné, Neymar va être un petit peu plus dans le partage. Ça se voit sur ses derniers matchs, ouais, sur ce qu'il fait pour l'équipe.
Exactement.
Est-ce que ça va perdurer? Je ne sais pas. Et comme le dit Étienne, le juge de paix sera le 8e de finale de Ligue des Champions. Et le parcours
voire
en Ligue des Champions, oui, du PSG. Parce que s'il y a échec, il remettra quoi qu'il arrive l'institution, la force de l'équipe qu'est le PSG, pour éventuellement aller ailleurs. Si le PSG a un très très bon parcours, et ça sera le même cas pour Mbappé, si le Paris Saint-Germain sort en 8e de finale de Ligue des Champions, on fera parier que Mbappé dira à la fin de l'année, moi je vais aller ailleurs. S'il faut un bon parcours, ça veut dire que PSG s'inscrit dans le gotha solide des clubs qui sont prétendants à la gagner, parce que pour l'instant, même s'ils ont l'étoffe et la réputation de pouvoir, on se rend compte que sur les dernières années, il y a eu échec. Ouais. Donc à partir de là, c'est aussi conditionné sur ça.
Mbappé, dont on apprend que c'est son grand copain, mais son grand poteau, son meilleur copain, c'est Verratti.
Et quand on parle,
vraiment, Verratti doit être content de l'interview, lui. Hein.
Ça, c'est sûr, mais Verratti, il est sympa, il n'y a pas raison qu'il n'ait pas des copains. Mais les destins de Neymar et de Mbappé, ils sont forcément liés, pas simplement parce qu'ils sont copains, qu'ils s'entendent bien, qu'ils se sautent dans les bras quand ils marquent un but, mais parce que tout simplement, si jamais, et on ne peut pas complètement l'exclure, en fin de saison, il y a des attaques très très fortes sur Kylian Mbappé, que finalement Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut imaginer que Neymar le quitte aussi? Non, non, ça deviendra impossible. Donc, qui reste ou qui parte, Mbappé influe aussi sur l'avenir de Neymar.
Verratti dit, c'est l'un des meilleurs avec lesquels j'ai joué.
Verratti, à son meilleur niveau, hein, c'est l'un des meilleurs à son poste.
Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur cette interview, mon cher Laurent Salerno. Si on passait à autre chose maintenant, tiens, si on allait de l'autre côté des Alpes.
Juventus 1, Udinese 0 porta alla nostra destra, nono minuto, ha segnato Cristiano Ronaldo, linea Cosenza.
Cristiano Ronaldo buteur lors des 4 derniers matchs maintenant. Il marque.
Ancora Cristiano Ronaldo, Juventus 2, Udinese 0.
Ballon magnifique de Gonzalo Higuaín, conclusion parfaite de Ronaldo, doublé.
C'est bien en français, mais c'est pas mal aussi en italien quand même, le commentaire. L'Italie, 16e journée le week-end dernier, mesdames, messieurs, avec cette victoire de la Juve 3-1 sur l'Udinese et le doublé de Cristiano Ronaldo. Et puis comme l'Inter a fait match nul à la Fiorentina, eh bien du coup, c'est la Juve qui repasse devant, contrairement à certains classements qu'on peut voir, parce que la différence de but est plus importante pour l'Inter, mais la différence, elle se fera au final sur la différence
particulière.
Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci monsieur Moetti. Et donc, pour l'instant, c'est la Juve qui a battu l'Inter et qui est devant. Et puis on parlera dans quelques instants de la Lazio qui est troisième, trois équipes qui se tiennent en trois points. Quelques mots sur Cristiano Ronaldo. Alors tout à l'heure Étienne Moati nous a dit oui, on s'interroge toujours à la même période, sauf que d'année en année, il prend de l'âge quand même. Cette année, il a quand même marqué 9 buts, il est assez loin de Ciro Immobile, 17, hein, il est derrière Lukaku, il est 4e ou 5e au classement des buteurs, je dois avoir ça quelque part. On peut s'interroger quand même sur son influence ou pas. Alors, vous avez eu la parole tout à l'heure, je vous la redonne pour amorcer le débat et après on en parle tous les trois, tous les quatre.
Moi je pense que l'âge de Ronaldo c'est pas un problème parce qu'il a changé donc son jeu déjà depuis plusieurs saisons et que comme on le sait, il s'entraîne toujours terriblement. Ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu, mais ça fait déjà un petit moment. C'est la vitesse, il est plus capable de partir donc de son camp et de faire un raid de 60 mètres pour aller marquer un but. Mais son jeu dans la surface, il est toujours exceptionnel.
Sa détente.
Et sa détente, exactement. On l'a vu encore aujourd'hui. Je veux dire, il a des abdos absolument phénoménaux. Il a encore de la vitesse d'exécution dans ses gestes. Donc je suis pas inquiet. Je veux dire, c'est la saison de la Juve qui aujourd'hui est un peu moins bonne que ce qu'elle l'était la saison dernière. Mais je pense que
du coup un calcio plus intéressant, il y a une vraie lutte.
C'est vrai, là. C'est vrai, plus d'adversité, mais je suis vraiment pas inquiet sur les stats de Ronaldo et sur sa capacité à être décisif dans les matchs importants.
Habib avant de donc Ciro Immobile 17 buts, oui, Pedro Cagliari et Lukaku 10 buts, Ronaldo avec le Colombien Muriel hein, de l'Atalanta compte 9 buts chacun.
On peut le voir sur de deux façons, c'est soit Ciro Immobile est en train de faire quelque chose d'incroyable et c'est le cas parce que pour le coup, il marque 17 buts en 16 matchs si je me trompe pas.
Oui.
Après, ce qui peut être inquiétant, c'est que Cristiano Ronaldo, l'année dernière, n'a marqué que, on peut dire, mais même si c'est en Serie A, que 19 buts sur le championnat, si je ne me trompe pas. Par rapport à ce qu'il était capable de faire auparavant, c'était en dessous de ses qualités. Mais on sait que le championnat de Serie A est compliqué. Après, je suis du même avis qu'Étienne, c'est que ces joueurs-là décident dans les grands moments. Et rappelez-vous, l'année dernière, dans une saison, on aurait pu penser que Cristiano Ronaldo n'était pas le Cristiano Ronaldo des années précédentes. Il est décisif quand même, rappelez-vous, au Juventus Stadium face à l'Atlético, lorsqu'il met ce triplé, cette forme de mini-remontada, alors qu'ils avaient perdu 2-0 à l'Atlético. Et c'est lui qui a été décisif au match retour contre l'Ajax, enfin en tout cas contre l'Ajax, rappelez-vous, c'est lui qui marque. Il ne peut pas empêcher son équipe, mais il est encore une fois décisif. Donc je pars du principe que je ne suis pas inquiet sur le Cristiano Ronaldo.
Vous lui donnez rendez-vous au Groupama Stadium à Lyon pour les 8e.
Je pense que ces joueurs-là sont toujours présents dans les grands moments. Et je vois pas comment Cristiano ne pourrait pas l'être avec la Juve, encore une fois, en Ligue des Champions. Parce que, comme l'a dit Étienne, il s'est réinventé. Et dans ces grands matchs-là, ils ont l'intelligence de faire les choses bien au bon moment. Donc voilà, je suis pas trop inquiet par rapport aux stats qui sont les siennes actuellement.
Pendant ce temps-là, Chérif Guémour prenait des notes. Alors
Non, mais pareil qu'Étienne. Moi, je l'ai vu marquer des buts en extension, enfin un amorti à 2 mètres du sol contre Udinese. Oui, c'est ça, ce week-end. Non, les qualités sont encore là. Le sens du but est encore là.
Pas d'inquiétude.
Non, la rapidité d'exécution, c'est un serpent qui mord encore. Ensuite, la situation globale de la Juve, ils sont beaucoup moins souverains que les autres saisons. Pratiquement à la mi-saison, ils avaient déjà pratiquement plié l'affaire en Serie A. C'est pas le cas. La Juve est moins souveraine. Là, je viens de vérifier. Donc, ils sont en effet 5e attaque de Serie A. Donc forcément, Cristiano Ronaldo va marquer le pas. Ensuite, il y a l'utilisation de Cristiano Ronaldo. Alors, c'est quoi? C'est un 4-3, 4-3-1-2 ou 4-4-2 losange, enfin peu importe. Ils sont 4 attaquants pour 3 postes. Ça tourne entre...
Ah, ils sont surtout 3. Alors, ouais. Je vous propose d'écouter Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve. Parce qu'on peut se demander, après tout, il a 34 ans, d'accord, c'est l'âge, mais c'est peut-être aussi le système. C'est la manière dont on les fait jouer, notamment donc Ronaldo, évidemment, Higuain et Dybala. On écoute Sarri. Ouais.
Nous pouvons nous permettre d'évoluer avec 3 attaquants quand nous jouons contre des équipes très bien organisées qui développent leur jeu en partant de la défense comme Sassuolo ou le Bayer Leverkusen par exemple. Le trio Ronaldo, Higuain et Dybala marche très bien dès que notre adversaire connaît une baisse de rythme comme ça a été le cas en Allemagne contre Leverkusen. Nous les avons mis en difficulté quand ils se sont montrés moins précis.
Alors,
donc... Voilà, ouais. Y a une sorte de, comment on appelle, de rotation. Bon, de toute façon, Ronaldo reste toujours titulaire. Mais voilà, ils sont 4. Il y a aussi des fois Bernardeschi qui joue, lui, le rôle de numéro 10, enfin, les deux attaquants. Dybala n'est pas à la fois toujours titulaire et pas toujours attaquant, co-attaquant avec Ronaldo. Il y a peut-être aussi une question de, comment dire, d'automatisme entre les 4.
Et d'alchimie. Mais par contre, aussi, parce que quand tu vois aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a toujours été dans des équipes où le projet de jeu tournait autour de lui. C'est la première fois avec Sarri que le projet de jeu de la Juve ne tourne pas autour de Cristiano Ronaldo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des problèmes, puisque d'ailleurs il l'a sorti à plusieurs reprises. Il estime qu'aujourd'hui Cristiano Ronaldo est un atout essentiel de son équipe, mais il estime pas que tout doit reposer sur Cristiano Ronaldo, ce qui était le cas au Real, ce qui était le cas à Manchester United, et c'était le cas avec Allegri, sauf que ça ne l'est plus avec Sarri. Sarri estime qu'un Higuain, un Dybala, un Bernardeschi doit autant exister qu'un Cristiano Ronaldo. Et c'est ce qu'il a dit. Cristiano Ronaldo, il a l'intelligence de se remettre en question en disant qu'il jouait blessé et tout ça. Je ne suis pas sûr que cette situation puisse tenir trop longtemps pour Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire quand il va sentir qu'il n'est pas l'élément le plus important de cette Juve, tant que ça marchera pour la Juve et qu'ils gagneront des matchs, il n'y aura pas de souci. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces joueurs-là ont un orgueil incroyable, que quand Cristiano Ronaldo regarde Ciro Immobile et qu'il se dit que les gars a déjà marqué 8 buts de plus que lui, il va falloir qu'à un moment donné, ça se rapproche. Parce qu'on sait que ces joueurs-là sont des joueurs affamés de statistiques.
Sauf que Dybala, comme tu dis, il veut exister, il tire des coups francs, des super coups francs, il marque des buts et il ne pense pas toujours à Cristiano Ronaldo comme Benzema pensait toujours à Cristiano Ronaldo.
Étienne.
La Juve, elle gagnait sans Cristiano Ronaldo. Ils ont été champions tous les ans avant qu'il arrive. Donc, le recrutement de Cristiano Ronaldo, ça consiste pas à gagner la Serie A. Est-ce que lui soit meilleur buteur de Serie A? C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir ce joueur-là qui va être décisif dans les matchs de Ligue des Champions à partir du moment où c'est de l'élimination directe. Et c'est là qu'il doit faire la différence. Donc, la saison de Ronaldo, finalement, elle commence après la phase de poule de Ligue des Champions.
Donc, deuxième sujet, ça fait 2 fois que vous nous renvoyez au printemps. Quoi.
Mais pour ces clubs-là, c'est l'enjeu, en fait, Olivier.
C'est l'enjeu, mais surtout qu'ils sont capables. Alors, évidemment, aujourd'hui, l'Inter résiste encore, même si j'ai le sentiment que la Juve va finir par se détacher assez inexorablement au fur et à mesure de la saison. Mais la Juve n'a pas besoin de Ronaldo avec l'effectif qu'ils ont pour être champion d'Italie, de mon point de vue. Donc, mais pour gagner la Ligue des Champions, oui. C'est aussi simple que ça.
On continue en Italie, messieurs. Donc, on est d'accord pour dire que tout va bien pour Ronaldo. L'âge est là, mais la détente aussi.
Non, mais nous, on pense que l'âge, c'est quelque chose d'important et extrêmement bénéfique. Et en plus, ça nous arrange.
Voilà. Oui, c'est très bien. Voilà. Hein, on va pas s'en plaindre, nous aussi. La Lazio renversante hier, messieurs, parce qu'on a parlé de l'Inter et de la Juve qui sont en tête avec 39 points, mais à 3 points, il y a une Lazio qui est assez amusante à avoir joué. La Lazio renversante menée 1-0 à Cagliari à la 93e minute, et puis deux buts dans le temps additionnel, 93e, 98e. Et voilà, une huitième victoire de rang. Le record du club, m'a dit Laurent Salerno, c'est 9, donc on est tout près du record. Solide troisième. On écoute l'entraîneur, Lazio, allez, Simone Inzaghi.
Noi, insomma, abbiamo fatto
ce que nous avons fait est très important. 8 victoires d'affilée, ça n'arrive pas par hasard. Bravo à mon équipe d'y avoir cru. Bravo aussi pour ce match contre Cagliari qui n'a pas été simple. Nous avons été lucides malgré un mauvais départ. On a contrôlé la circulation du ballon, on a été maître du jeu. On ramène cette victoire et on continue notre série.
Alors, on a entendu Simone Inzaghi, c'est sympa d'ailleurs de voir encore une fois un jeune entraîneur qui arrive à bousculer un petit peu ou qui pourrait se mêler au titre. Qu'est-ce qu'il vous inspire ce parcours de la Lazio, Étienne ?
Il m'inspire plus globalement qu'en Italie, la Juve gagnait donc extrêmement facilement parce qu'elle avait une très bonne équipe, elle est bien organisée, elle était bien entraînée, mais aussi parce que les autres n'étaient jamais au rendez-vous.
Oui, on avait Naples ou la Roma, mais quand même assez rapidement à distance, il n'y avait pas vraiment la bagarre.
Les clubs italiens étaient devenus mal structurés, mal dirigés, parfois mal entraînés. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, sans être le meilleur spécialiste de Serie A, que dans plusieurs équipes aujourd'hui, donc on est mieux organisé en termes de structure de club, mieux organisé en termes d'entraîneur, et que forcément, donc les écarts se resserrent. Alors, je pense que la Lazio a beaucoup de mérite parce que son effectif est quand même loin de celui de la Juve. À l'Inter, il y a aujourd'hui des moyens. Il y a aussi un effectif qui s'est amélioré. C'est une équipe bien entraînée. Donc, il y a une compétition, je veux dire, plus naturelle qui se fait aujourd'hui.
L'effectif, on en parle. Shérif, il y a Ciro Immobile qui marche sur l'eau. Hein, 17 buts en 16 matchs. Milinkovic, qui d'autre ? C'est vrai que c'est...
Coréa
on
aussi.
Le regardait, il y a un effectif assez homogène. Pas de superstars, mais plein de bons joueurs.
La Juve, il y a un effectif homogène avec plein de superstars. C'est mieux.
Il y a quand même une grande superstar.
Je pense d'abord que la même chose qu'Étienne, c'est-à-dire qu'il y a un saut qualitatif de la Serie A comparé à ces dernières saisons. J'ai vu la Lazio, j'ai vu ses deux visages contre la Juve quand ils ont battu la Juve 3-1, il me semble, c'est ça. Ils ont baladé la Juve. J'étais étonné parce qu'ils leur sont vraiment entrés dedans. À côté, ils sont éliminés de la Ligue Europa. Enfin, on les a vus contre Rennes, c'est fantomatique.
Bon, après, ils ont réussi à perdre contre Rennes. C'est arrivé à personne d'autre.
C'est l'équipe. On va être gentil, c'est l'équipe B prime. Et par contre, quand je vois le meilleur de la Lazio, c'est cohérent. Il y a un jeu lisible. Donc ils ont une carte à jouer. Alors peut-être pas pour le titre, mais c'est une équipe qui est belle à jouer. Enfin, je veux dire la façon dont ils ont renversé la Juve. Moi, j'ai été impressionné. Maintenant, ils sont sur une série de victoires. On va voir par la suite.
8 victoires de rang, ils vont se mêler à la lutte, d'après vous.
Mon seul problème, c'est qu'ils sont Ciro Immobile dépendants. Et que, à l'image d'hier, par exemple, où ils ne marquent pas, c'est vrai que ça se décide dans les dernières minutes. Mais lorsque vous avez un joueur qui a marqué 17 buts en 16 matchs et que le deuxième meilleur buteur, c'est Correa, je crois qu'il en a mis 5 ou 6, ça peut être un problème. Il faut quand même réussir à dégager 2 buteurs majeurs. Là, pour le coup, ils n'en ont qu'un. Là où ils sont bons, c'est qu'ils jouent en 3-5-2, si je ne me trompe pas, et que défensivement, c'est la deuxième meilleure défense d'Italie, de Serie A. Ce qui n'est pas une mince affaire lorsqu'on connaît la qualité aussi de la Juve depuis des années sur cet aspect-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un entraîneur qui essaie aussi d'avoir de la continuité dans ce qu'il fait. Et puis, tant qu'Immobile marchera sur l'eau, on verra la Lazio au basque de l'Inter et de la Juve. Ce qui est assez remarquable, et je rejoins Étienne, c'est que lorsqu'on voit quand même l'effectif de la Juve, l'effectif de l'Inter, la Lazio, ils sont très très loin de ça. Donc, je voudrais dire qu'en ce moment, on a l'impression qu'ils surperforment, en fait. Même si j'aime pas ce terme, parce que je pense qu'une équipe ne peut pas surperformer. Vous pouvez pas changer un âne en cheval de course. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que là, ils sont vraiment au taquet. Et que oui, il y a une forme de nivellement des valeurs qui se fait aussi par l'apport tactique aussi d'Inzaghi. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir la route? Je ne pense pas.
Ils sont bien deuxième meilleure défense. Alors, il y a trois équipes. La meilleure défense, c'est l'Inter, la Juve, la Lazio et l'AS Rome, n'ont encaissé que 16 buts, on l'a dit, en 16 matchs. Mais c'est surtout, et là encore, Monsieur Salerno est à l'affût, la meilleure attaque, grâce à Thiago Immobile. 38 buts, ça veut dire un peu plus de 2 buts par match.
Et il est incroyable, il était déjà incroyable l'année dernière. Et c'est vrai qu'on ne l'a jamais cité, on ne le cite pas, Thiago Immobile, c'est un peu à l'ancien. Il a été en équipe d'Italie, mais c'est vrai qu'il marque tout le temps avec cette Lazio. Il est dans un projet de jeu qui lui convient. On a l'impression que tous les ballons sont pour lui. Et puis on a ce petit Correa là qui est pas mal, l'Argentin, qui aussi lui permet à Ciro Immobile d'avoir pas mal d'espace. C'est un créateur, donc on a une équipe qui est aussi très très solide défensivement avec ce 3-5-2 que la Juve avait adopté, rappelez-vous, avec Allegri. C'est ce qui faisait aussi la force de cette Juventus de Turin à l'époque.
Oui, puis non, le Napoli est en train de s'écrouler, donc pareil, il y a des places à prendre. La nature a horreur du vide.
Oui, et puis on rappelle que Cagliari, qui marque un tout petit peu le pas, c'était l'équipe surprise de ce championnat. C'est vrai qu'hier, ils peuvent s'en mordre les doigts quand on mène 1-0 à la 93e. Ils sont 5e.
Et le 3-5-2 à la mode quand même. L'Inter en 3-5-2, la Lazio en 3-5-2, sont deux équipes qui sont dans le top 3 de cette série.
Et la Juve l'a abandonné.
Et la Serie A qui revient un peu à la mode, et c'est ce que disait Chérif, et c'est vrai, on avait perdu la Serie A en dehors de la Juve, et puis
mais l'Inter sortie de la Ligue des Champions, ça reste quand même un couac pour la Serie A, parce que c'est une équipe qui a quand même ramené Antonio Conte pour ça, et c'est je trouve, en Italie on le dit pas comme ça, Antonio Conte a dit qu'ils étaient en apprentissage et que c'était l'année de transition. Moi je pense que c'est malgré tout un mini échec pour l'Inter de pas être en huitième de finale avec quand même des Lautaro Martinez, avec des Lukaku, avec Antonio Conte qui est arrivé sur le banc. Je pense que l'ambition était...
Mais s'ils réussissent à piquer le titre à la Juve, je pense qu'ils auront oublié leur élimination.
Voilà, exactement.
Oui, parce que c'est important aussi quand même le titre, surtout à l'Inter, où ça fait longtemps qu'on n'a pas été à pareille fête.
Déjà, revoir une équipe de Milan dans le top 3 italien, ça fait du bien quand même, mine de rien.
Oui, parce que j'avais imprimé jusqu'à la 10e place, ça tombe bien, le Milan AC, l'autre équipe est 10e et très très loin, voilà, vraiment dans les profondeurs du classement. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur la Serie A. On pourrait parler maintenant colossal football.
Klasse gespielt! Ball hinter der Linie! Aus für Lewandowski! Kein Abseits! Und das ist die Führung! Nein!
Si on compare tout à l'heure avec le commentateur italien, c'est quand même autre chose, là-bas dans la langue de Goethe. Hein, ça éructe un peu plus, c'est violent, mais néanmoins, c'est la Bundesliga. Et la Bundesliga n'est pas violente, mais elle est fort séduisante, à mi-parcours ou presque, 15 journées sur 34 disputées. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers une Bundesliga de folie, avec, entre le premier et le cinquième, nous avons, je compte, 5 équipes en 6 points. Leipzig 33, Mönchengladbach 31, Dortmund 29, Schalke 28 et le Bayern 5e 27. Là encore, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une Bundesliga, notamment rien que parce que le Bayern est 5e, mais enfin voilà, c'est ouvert.
Oui, il y a aussi des raisons économiques à cela, parce que la Bundesliga, pendant longtemps, elle avait des droits télé qui étaient très très en retrait par rapport aux autres grands championnats européens. Aujourd'hui, elle a des droits télé extrêmement importants, un petit peu comme tout le monde, et donc il y a une répartition qui se fait entre les clubs. Et il y a plus simplement le Bayern qui a de grosses recettes, donc les clubs peuvent aujourd'hui garder un peu plus leurs joueurs, investir aussi sur des joueurs, et comme on travaille bien en Allemagne et qu'on a un esprit offensif et que le Bayern n'est pas toujours au rendez-vous, on a aujourd'hui un championnat qui non seulement est attractif, ça il l'a souvent été, mais en plus il est disputé et serré.
Avec 3 clubs qualifiés en 8e de finale de Ligue des Champions.
Oui.
J'ai cité entre 3 et 4, donc 4 c'est les Anglais, sont les Anglais et les Espagnols, exactement.
3. C'est pas non plus le miracle allemand qu'on s'était projeté au début des années 2010, rappelez-vous quand on disait il y aura le Bayern, Dortmund, Leverkusen et Schalke. Et ils vont dominer.
On disait ça.
Au début des années 2010, ouais.
En même temps, il y a le Bayern.
Personnellement, je le disais pas. Mais après, chacun dit ce qu'il veut. Hein.
On a une finale quand même Bayern-Dortmund. Je crois que c'était la première fois de l'histoire. Et puis, il y avait les clubs qu'on suivait, de second ordre, mais bon, sur lesquels on
a pensé que Schalke allait dominer l'Europe. Non, quand même.
Non,
pas.
Mais non, un groupe.
Chérif, vous étiez allé à Amsterdam
Non, mais par contre, là où je rejoins Chérif, c'est qu'il y avait quand même, on parlait beaucoup de la formation allemande avec des jeunes joueurs qui émergeaient, des jeunes joueurs
merci
de grand talent. Je pense à Götze.
Merci
à tous ces joueurs qui sont arrivés. Même, on peut parler de Marco Reus, qui sont arrivés à ces moments-là où vous avez 18 ans, où on voyait une jeunesse allemande exceptionnelle et que du coup, on avait tendance à penser que toute cette jeunesse allemande qui émergeait à l'intérieur des des clubs allemands,
voilà,
allait venir fleurir déjà cette équipe d'Allemagne, et en plus les grands clubs allemands, ouais, c'est pour ça qu'on pensait que, mais c'est vrai qu'après
alors,
il y a eu
ils ont fleuri hein, l'Allemagne championne du monde 2014, oui, bah... un petit creux, mais ça va peut-être revenir en juin prochain, en tout cas ça,
mais, voilà, mais pour Leipzig,
la génération est là.
Pour Leipzig, ce qui est exceptionnel, c'est le travail de Nagelsmann, parce qu'on n'en parle pas, mais cette équipe, mine de rien, elle a Haidara, elle a recruté Nkunku. Ok, elle a Timo Werner, qui est l'attaquant de la Mannschaft, qui est un joueur très 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 bon joueur, mais dont on ne parle pas aujourd'hui dans les 20 qui comptent dans, ouais, dans le monde dans des attaquants. On voit quand même une équipe qui est la meilleure défense du championnat d'Allemagne, si je ne me trompe pas, Leipzig. Meilleure attaque devant le Bayern Munich, ce qui n'est pas une mince affaire. Et moi, quand je regarde l'effectif de Leipzig, je me rappelle commenter il y a 2 ans face à Monaco, ou il y a 2 ou 3 ans face à Monaco, quand on voit Sabitzer, alors oui, ils ont Upamecano, ils ont des joueurs comme ça, mais c'est très très loin.
Français, aux voilà, portes de l'équipe de France, fait partie de ceux
Zagadou
qui pourraient intégrer les Bleus pour
le Dortmund. Il a encore trop de moments d'absence où il fait des erreurs majeures et je pense que ça, c'est ce qui le sépare encore.
Mais il est dans la liste des 5-6 oui, potentiels.
À ce poste-là, il y a tellement de joueurs qui peuvent être en équipe de France, il y a tellement de potentiel en France sur les défenseurs centraux.
Oui, mais rien
c'est
que
quand
pour
même,
le nom,
c'est la qualité du jeu. Quand on voit Leipzig contre Lyon, c'est regardez, c'est magnifique.
Mais sa sortie d'ailleurs a permis à Lyon de se qualifier parce que c'est vraiment quand lui et Werner sont sortis que Lyon a pu réexister dans cette partie.
Il y a des faiblesses derrière quand même. Moi,
oui, bien sûr.
Je me suis penché, j'ai vu des matchs au Bundesliga. Alors les attaquants peuvent être super forts. Au niveau du geste parfait, ils ont des vrais attaquants. Bon, après c'est de la Bundesliga, ça peut être des tirs de loin ou marquer de près. Mais on voit la défense.
Oui, mais ils sont meilleurs.
Ça, c'est défense. Les défenses en retard.
Ils sont meilleures défenses de Bundesliga, c'est ça qui est assez incroyable.
Oui, mais comment dirais-je, c'est pas l'assurance touriste. Tu vois,
non, je suis d'accord
contre
avec
Lyon.
Toi,
comment que ça se fait que les gars ils mènent 2-0, d'abord ils portent pas les stockades, ils se font rattraper par Lyon. Lyon,
oui,
c'est,
mais quand
c'est
tu vois ce match-là, quand tu vois ce match-là, et quand t'observes un petit peu, tu te dis Nagelsmann s'en est servi comme, les 30 dernières minutes de Leipzig, on a l'impression que c'est un test.
Il
arrêtait pas de faire des gestes, toucher le gardien. Et puis, comme il a dit, il a sorti ses deux meilleurs joueurs. Et on a quand même un joueur, Forsberg, dont on parle pas. Mais qui est assez impressionnant. Qui est le international suédois. Qui est le pendant de Timo Werner, en tout cas à la passe. Qui j'ai trouvé, moi, exceptionnel contre Lyon sur sa qualité technique, d'une fluidité incroyable, dont on parle pas aussi. Ce sont des joueurs qui sont, pour moi, sous-cotés. Et qui font de Leipzig, la meilleure équipe aujourd'hui en Allemagne. En tout cas, première du championnat.
La lourdeur des défenses du Bayern et de Dortmund laisse à désirer. Voilà, c'est fini.
J'attendais que vous prononciez son nom 3 fois, j'ai bien compté, 3 fois, Nagelsmann, pour vous
32
proposer
ans, 32 ans.
De l'entendre, de l'écouter. C'est parti.
Dortmund, c'est une équipe exceptionnelle, qui met un rythme incroyable, avec un esprit offensif génial. Ils ont aussi une idée très claire de ce qu'ils veulent appliquer sur le terrain. Ils ont plusieurs systèmes de jeu qu'ils maîtrisent parfaitement, ce qui leur permet de varier pendant le match et de s'adapter aux situations les plus inattendues. Mais j'estime que c'est normal pour une équipe composée de joueurs si talentueux comme Mats Hummels, par exemple, qui est sur les terrains depuis très longtemps et qui a une expérience incroyable. C'est un collectif très complet qui va nous demander beaucoup d'efforts.
Julian Nagelsmann, parfaitement maîtrisé par Guézou. Hein. Martin Guez, vous avez vu, vraiment l'ambianceur en chef
c'est
du service des sports. C'est l'entraîneur à la mode et c'est pas anodin. Il vient maintenant, il nous parle de Dortmund. Vous venez de dire beaucoup de bien de Leipzig. On disait beaucoup de bien ces derniers mois ou ces dernières années de Dortmund.
C'est, pas il y a quelques semaines, ils étaient très mal.
Oui, mais c'est l'affiche du soir. Le troisième qui accueille le premier, Dortmund qui accueille Leipzig. C'est marrant, quand on entend Nagelsmann parler de Dortmund, on a l'impression qu'on vous entendait tous les trois aussi parler de Leipzig. Là, il y a quelques secondes.
Oui, parce que je pense que ça va faire plaisir à Sheriff, mais il a connu ce football total hollandais. Je trouve que le football de Leipzig ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est un paradoxe. On la voit meilleure défense de Bundesliga. Pourtant, quand vous la regardez jouer, elle ouvre quand même pas mal de portes. Il y a quand même pas mal d'espace dans cette défense parce qu'ils sont sur un football où beaucoup de gens se projettent. On l'a vu contre Lyon. Des fois, ils attaquaient à 6, à 7. Et défensivement, il s'expose. Et malgré tout, ça tient. Ça tient parce qu'il y a un bon gardien aussi. Gulacsi, qui d'ailleurs a fait de très très beaux arrêts. Et puis Nagelsmann, qui est un fin tacticien. Je pense qu'il fait partie de cette génération des jeunes entraîneurs allemands dont on a parlé. Donc Tuchel.
Ouais, tout à fait.
Forcément, aujourd'hui, qui sont des entraîneurs qui sont arrivés à travers une formation allemande qui a, je trouve, maximisé le football allemand et la vision sur toutes ces jeunes entraîneurs.
Étienne.
Après, moi, ces clubs allemands, c'est vrai qu'il y a énormément de fraîcheur, il y a un jeu offensif, il y a des entraîneurs intéressants. Après, pour les matchs de Ligue des Champions, je pense que c'est pas forcément un mauvais tirage pour le Paris Saint-Germain, par exemple, de rencontrer une équipe comme Dortmund.
Cette saison, en tout cas, sans doute plus que les saisons dernières.
Parce qu'on a évoqué Leipzig, donc qui joue quasiment le titre en Allemagne, qui a pas encaissé beaucoup de buts en Bundesliga, et ça nous surprend.
16.
Habib et moi, quand on la voit jouer parfois en Ligue des Champions, je veux dire, c'est une équipe qu'on a vu jouer contre Lyon et malgré tout,
buts, hein.
Et
Leipzig, c'est 16 buts encaissés en 15 matchs. 42 buts marqués. Voilà. On est presque à 3
voilà.
buts.
Mais il y a une naïveté, mais il y a une naïveté défensive dans certains matchs qui est quand même étonnante. Il y a parfois un déséquilibre qui s'opère au milieu d'un match qui favorise quand même l'adversaire. Donc quand vous rencontrez Leipzig ou je pense quand vous rencontrez Dortmund, vous avez quand même des opportunités que vous n'avez pas quand vous jouez l'Atlético Madrid ou aujourd'hui le Tottenham de José Mourinho.
Dortmund est en train de se rééquilibrer
avant et le problème de ces équipes allemandes, c'est qu'en un souffle, elles peuvent vous balayer. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a que là-bas qu'on voit ça. C'est-à-dire que vous avez Barça de Guardiola qui en 5, 6, 7, 10 minutes pouvait vous mettre 3 ou 4. Mais Leipzig et Dortmund, ce sont des équipes que vous pouvez voir sombrer défensivement. Et ça a été le cas en Ligue des Champions. Vous la voyez jouer contre Lyon à domicile ou elle perd. Là, ils en prennent 2. Mais c'est une équipe qui est capable, en fait, d'une rafale comme ça, de vous en mettre 2, 3. Et vous n'avez pas vu ça venir. Et Dortmund, c'est un petit peu ça. Dortmund nous a habitués à ce genre de match où en l'espace de 15 minutes, vous avez pris une rafale jaune, vous ne savez pas où ça arrive, et vous vous dites pourtant ils sont super ouverts, c'est pas très équilibré, mais c'est presque incontrôlable. Et je pense que Jürgen Klopp, Thomas Tuchel sont des entraîneurs en fait dans cette lignée-là. Jürgen Klopp, il est comme ça.
C'est des équipes de transition qui se déséquilibrent. Dortmund, c'est ça. Ouais.
Et qui sont capables de faire très mal à l'adversaire.
Super vite. Et ils attaquent à 4 ans sur les contres, ça va super vite.
On va aborder rapidement Fribourg-Bayern, mais personne, on ne parle plus du tout de Mönchengladbach qui était le leader de ces dernières semaines, qui perd ce week-end, qui se retrouve deuxième. Mönchengladbach à 2 points de Leipzig, c'est fini, ça va rentrer dans le rang.
Non, ça va peut-être pas rentrer dans le rang, mais pour moi, ça surperforme encore une fois. Ils sont au max. Voilà, ils sont au max du max.
Avec Marcus Thuram.
Ils ont eu Marcus Thuram qui
a eu un doublé.
Ben Sebaini, oui, bien sûr.
Je pense que c'est une équipe qui a accès aussi sur le travail collectif. Et encore une fois, oui, ils sont aussi dépendants de certains joueurs. Peut-être que ça peut durer, mais je pars du principe que c'est vrai que si vous avez Leipzig, si vous avez Mönchengladbach qui est là, c'est aussi parce que le Bayern est en difficulté et qu'on n'était pas habitué à ça. Donc on a un nivellement, je trouve,
Il y a quelque chose qui est assez étonnant parce que on a regardé le Bayern depuis le début de la saison, notamment en Ligue des Champions. On leur voit faire des matchs extraordinaires. Ils en ont mis 7, c'est ça?
7-2 à Tottenham.
C'est une équipe absolument éblouissante. Et on se demande comment elle fait pour ne pas dominer la Bundesliga. Donc, ils ne doivent pas être comme ça tous les week-ends en championnat.
C'est peut-être parce qu'en championnat, on les connaît mieux? On a l'habitude de les jouer toutes les saisons, 2 fois par saison.
Je pense parce que peut-être les joueurs mettent pas la même intensité dans tous leurs matchs.
Les adversaires mettent une grosse intensité. Deuxièmement, moi je trouve que c'est un peu plus friable en défense. Neuer n'est plus aussi souvent aussi qu'avant.
Le Bayern donc. Justement, puisqu'on y vient, le Bayern qui a toujours le meilleur buteur, parce qu'on parlait tout à l'heure du classement des buteurs en Italie avec Immobile loin devant 17 buts. Là, on a Lewandowski 18, Timo Werner évidemment de Leipzig 16 buts. Ils en ont marqué 42, donc il en a marqué 16 à lui tout seul, puis derrière. C'est à 10 buts, 9 buts, Marco Reus, Hennings du Fortuna Düsseldorf. Ce soir donc, Fribourg 6e qui accueille le Bayern. Il y a de belles affiches en Allemagne en milieu de semaine, c'est plutôt sympa. Le Bayern, des hauts et des bas.
C'est surtout qu'ils n'arrivent pas encore à fixer quand même. S'ils vont garder l'intérimaire, s'ils vont trouver quelqu'un.
A priori, monsieur Lortolari, docteur S Bundesliga, qui sera ce soir à Fribourg-Bayern d'ailleurs, nous disait la semaine passée qu'il resterait jusqu'en juin. C'était acquis. Donc Hansi Flick, a priori jusqu'en juin. Donc on l'a dit, il y a des week-ends avec et des week-ends sans. Ce week-end, c'était avec. 6-1 face au Werder Bremen. Le Bayern est là en embuscade. À l'expérience. On a quand même l'impression qu'avec Leipzig et Dortmund, il y a... Bon, Dortmund, c'est plus habituel, mais il y a match quand même cette saison.
Il y a clairement match. Après, en Ligue des Champions, ils ont été impressionnants. Donc, c'est aussi ça, le juge de paix. On en parlait tout à l'heure. Si c'est le juge de paix pour Paris Saint-Germain, ça sera le juge de paix aussi pour le Bayern. Et ils ont un joueur hors norme. En ce moment, il faut le dire. Lewandowski.
Coutinho commence à s'imposer.
En tout cas, commence à s'imposer. C'est surtout par des éclairs de génie de temps en temps. Deux fois par mois, il arrive, il monte le bout de son nez et puis il repart.
C'était pas le cas en début de saison.
Non, c'est sûr. Mais moi, je pense toujours que ces institutions, elles sont là. Elles sont là et elles vont perturber beaucoup d'équipes qui pensent que le Bayern est fini.
Mais ils ont une défense curieuse au Bayern. Alaba, donc, joue maintenant souvent en défense centrale. Voilà. Vous avez Pavard, on ne sait pas très bien chez eux s'il est latéral, s'il est défenseur central. Il y a eu la blessure donc, de Hernandez. Donc, ils ont quand même un vrai souci en défense. Et je pense que c'est ça, je pense, un peu le problème du Bayern depuis le début de la saison.
On a des championnats globalement en Europe. Je mets la Ligue 1 sur laquelle on arrive là de côté, mais qui sont en ballant à mi-parcours ou presque, plein d'incertitudes, contrairement à certaines
vous
années.
On peut mettre aussi l'Angleterre de côté, alors, si c'est sur les incertitudes.
Sauf l'Angleterre. C'est vrai que on a une tellement, on a tellement l'habitude de cette première ligue qui est en ballante, même quand il y a un mec qui a 14 points d'avance, d'ailleurs, enfin, une équipe en l'occurrence.
Elle peut être en ballante avec quelqu'un qui domine, mais en tout cas, il y a quand même quelqu'un qui domine de la tête et des épaules.
En Allemagne, il y a match, en Italie, il y a match, en Espagne, on va voir, il y a le Classico, encore, demain, et je vous rappelle qu'il y aura double émission de Radio Foot, hein, vous en aurez double dose, et la dame, c'est pour ça qu'elle se repose aujourd'hui, la dame. Elle a deux matchs, elle, demain, en quelque sorte, avec Laurent Salerno et Marie-Amélie Mott.
Après, on est...
Et un classico, alors que les deux équipes sont en tête à mi-parcours juste avant Noël.
On est quand même le championnat le plus faible d'Europe, en ce moment.
Oui, justement. Allez.
Si on devait comparer l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, aujourd'hui, la Ligue 1.
Dans le top 5. Messieurs, je vous demande de vous arrêter. C'est pas parce que c'est le plus faible qu'on n'a pas droit à un petit jingle, un petit quelque chose pour montrer qu'on arrive sur la Ligue 1. Laurent Salerno, allez-y.
Camavinga. Oh, Camavinga! Oh, le dribble! Oh, l'enchaînement de Camavinga! Oh, l'exploit! Quel but du gamin, Camavinga!
C'est vrai qu'il y a un contraste. On fait pas exprès avec Laurent Salerno, hein. Il y a un contraste sur les trois jingles qu'on a eu, hein. On a eu l'italien, là, avec le français, c'est poétique. On a eu l'allemand, là, il envoie tout. Puis là, bon, ben, c'était un peu plus plomb-plomb. Bon, mais en même temps, c'est un très joli but. Alors, avant de parler de la starlette du moment, le point classement, hein. Bon, à 17 ans, c'est pas encore une star, quoi. Voilà. C'est pour ça que je dis ça.
Je vais abonder dans ce sens-là. Paris,
42 points. Allez, bon, ça, Marseille, 35. Lille, 31. Rennes, 30. Et voilà. On rappelle que de Lille, 3e à Strasbourg, 14e, c'est ce qui fait le charme de notre championnat. On aimerait que ce soit pour le podium, mais non, c'est entre la 3e et la 14e place. 12 équipes se tiennent en 7 points, donc on l'a dit et redit, hein, vous gagnez deux fois, vous êtes à la lutte pour la Ligue des Champions, vous perdez deux fois, vous luttez pour vous maintenir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est Rennes. Hein. 5 victoires de rang, 4 en championnat, parce qu'en Ligue Europa, ils ont quand même enfin fini par gagner un match. 4e à 1 point de Lille, à 5 de l'OM. Quelques balbutiements au début d'exercice. Et puis Julien Stéphan a retrouvé la bonne carburation. Alors on l'écoute, parce que c'est intéressant. On a parlé de jeunes entraîneurs en Allemagne. Nous aussi, en Ligue 1, on a de jeunes entraîneurs.
Il est très
et
bon.
Julien Stéphan en fait partie. On l'écoute d'abord.
C'est une satisfaction d'engranger une 4e victoire consécutive en championnat, une 5e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Ça nous permet aussi de continuer à engranger de la confiance. Donc voilà, c'est tout bénéfice pour nous ce soir. Je regrette simplement qu'on n'ait pas eu plus d'efficacité, parce que ce soir, on aurait certainement dû et pu marquer au moins un but supplémentaire.
Et la précieuse Amélie Mott nous rappelle, Marie-Amélie Mott, nous rappelle que Rennes est 4e à 1 point de Lille, mais avec un match en plus à disputer, et un match contre Nîmes, contre qui à peu près tout le monde gagne et marque au moins 3 ou 4 buts en ce moment. Oh, c'est pas gentil pour les crocos, mais enfin, bon, c'est comme ça. Ils sont derniers, ou avant-derniers. Donc Rennes, potentiellement, avec une victoire contre Nîmes, potentiellement à 2 points de Marseille, 3e. Voilà, les Rennais sont là. Il y a eu des changements durant l'été. Il a fallu se réadapter.
Beaucoup de départs.
Et on a l'impression que c'est reparti.
C'est surtout qu'ils ont bien démarré, rappelez-vous. Ils ont battu le Paris Saint-Germain à domicile. Et puis ensuite, ils ont eu un moment de creux, de gros creux, puisque rappelez-vous que Julien Stéphan était quand même sur la sellette. On parlait de éventuellement le remplacer.
On se demande d'ailleurs comment c'était possible.
Oui.
Quand vous gagnez un titre dans un club qui n'en gagne jamais, que vous êtes un jeune entraîneur avec du talent. Donc,
c'est la problématique.
Si Olivier Létang, le président rennais, se calme un petit peu et donc laisse un peu travailler son entraîneur, ça ira mieux.
Je pense que pour le coup, il l'a fait. Et puis surtout, c'est que comme ce championnat est relativement faible, il faut le dire, faire une série comme l'a fait l'Olympique de Marseille, faire une série comme l'a fait le Stade Rennais, permet de tout de suite retoucher le podium. Et ce qui est pas dramatique pour notre championnat, mais lorsqu'on voit Nantes qui est 5e avec 7 défaites en 10 matchs.
Non, mais Angers qui est passé de la 2e à la 11e place.
Ce qui est dramatique, c'est d'être 5e du championnat avec 7 défaites en 10 matchs. Ça veut dire que tu as presque perdu la moitié de tes matchs. Et donc, ça prouve que ce championnat, en fait, il faut absolument que ces équipes-là arrivent à réaliser des séries de façon à pas s'accrocher au PSG,
bien sûr,
mais à s'accrocher au podium.
Mais ça, Alors, c'est, ça,
Non, mais je voudrais. Bon, on a dit ce qu'il y avait à dire sur Rennes. On est tous d'accord pour dire que Julien Stéphan
fait du très bon travail.
Non, vous n'êtes pas d'accord. Il fait pas du bon travail.
Non,
il est pas prometteur.
J'aime bien Julien Stéphan.
On n'a pas tout dit sur Rennes.
Ouais, on n'a pas tout dit sur Rennes. Non, c'est comment dire. Moi, quand je vois ce que fait Rennes, enfin, je vois les 9 matchs sans victoire, c'est pas un hasard. Je les ai vus en Europa League. Je suis désolé. Alors ça, par contre, c'est nouveau.
C'est maudit pour les clubs français.
Ça explique aussi pourquoi un joueur comme Camavinga
voilà. Camavinga. On l'a bien senti, là, lui, on est un Minga.
Voilà. Camavinga. Pour aller à l'essentiel, pour Camavinga. Camavinga, d'abord. D'accord. Donc, déjà, un joueur qui se bouge un peu quand l'effectif est apathique, qui n'a aucun impact physique. Il suffit de regarder les matchs en Europa League. Ils n'ont pas existé au niveau de l'impact physique. Donc, quand on voit un Camavinga, justement, qui se défonce, on le voit tout de suite. Et deuxièmement, par défaut, comme c'était le désert total, Camavinga, voilà, on le voit.
Mais forcément. Alors, j'ai employé le mot le talent est exceptionnel.
Et à côté, il y a un grand talent.
Il se tait maintenant. 2 minutes pour parler de Camavinga, parce que je voudrais qu'on dise 2 mots sur Edouard Mendy aussi, le gardien sénégalais. Camavinga, on l'a dit, il est né à Cabinda. C'est pas banal, ça. De sinistre mémoire, on fêtera. On se souviendra dans quelques semaines des 10 ans de l'attentat du bus des Togolais avant la CAN 2010. Camavinga, donc né à Cabinda, naturalisé français le 4 novembre dernier. Des débuts en Ligue 1 il y a quelques mois. Son premier but dimanche, quel but! Et tout d'un coup, la une de l'équipe se matin, bon, l'équipe de temps en temps on s'emballe un peu quand même, Étienne Moët, je vous regarde quand même.
C'est pas le premier match.
Et on dit le Real.
C'est pas le premier match où il est extraordinaire.
Ouais, mais on dit le Real le veut et Rennes dit 700 millions.
On dit pas le Real le veut, on dit le évidemment Real, que le Real le veut, mais donc c'est étayé par beaucoup d'éléments qui montrent qu'aujourd'hui le Real a un œil vraiment sur lui et commence à réfléchir.
Et après Rennes qui répond 100 millions.
Mais en même temps, dans l'aspect spéculatif, vous avez un joueur qui a 16 ans, qui vient d'avoir 17 ans ou qui va avoir 17 ans, qui est dépositaire du jeu de Rennes. Qui a été extraordinaire contre le Paris Saint-Germain en championnat.
Qu'il est milieu de terrain.
Lorsqu'ils avaient battu le PSG, qui est pour moi extraordinaire encore une fois face à Lyon, et surtout qui a énormément de personnalité. Et ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il reste simple. Alors qu'on parle de lui, il fait la même chose que ce qu'il faisait au mois d'août, pas plus. C'est-à-dire qu'il est performant, il grandit,
il a eu un creux,
il s'améliore. Oui, mais il a eu un creux.
Ouais,
il a 16 ans.
Ouais, oui,
donc mais... à un moment donné. Je pense que ce qui plaît au grand club, c'est cette régularité, c'est cette personnalité et le fait que aujourd'hui il a 17 ans et que en termes de spéculation, c'est ouvert.
Quoi. On peut pas être sûr que Camavinga ça va être un immense joueur. En revanche, ce dont on est sûr, c'est qu'il a le profil pour l'être parce que quand vous le regardez jouer, c'est un joueur pour un grand club. Il joue la tête levée. Je veux dire, à cet âge-là, c'est extrêmement rare donc d'avoir ses qualités physiques, ses qualités techniques, jouer la tête comme ça en l'air et regarder. Donc, si vous l'observez jouer, c'est
immense
absolument remarquable.
Froid,
donc,
immense sang-froid.
Il a évidemment, cet immense sang-froid qui fait qu'il a tous les éléments pour être un grand joueur d'un grand club. Après, est-ce qu'il le deviendra? Ça reste la question.
Pourvu qu'il reste jusqu'en juin prochain, ce serait pas mal, mais
ça c'est sûr.
Le cas, un grand milieu de terrain en devenir, un entraîneur très prometteur, Julien Stéphan, et un gardien qui a retrouvé toute sa splendeur. On l'a découvert à Reims, je me permets de le rappeler, un cinquième du championnat, bon, c'est pas mal non plus. On en parlera plus tard. Edouard Mendy s'était blessé à la CAN, il a eu un peu de mal à revenir, puis là, il a été excellent dimanche contre Lyon. Quelques mots.
C'est un gardien en constant progrès qui montre aussi de la personnalité. Je pense que c'est une bonne chose pour le Sénégal d'avoir 2 gardiens de grande qualité,
ouais,
parce qu'il y a Gomis aussi. Donc pour Aliou Cissé, c'est parfait. Et ce qui est intéressant chez Edouard, c'est qu'il se remet très très vite en question. Vous l'avez dit, il a rencontré un moment compliqué. Rappelez-vous en Europa League où il concède le penalty ou le coup franc et il est expulsé. Ce sont des moments pas faciles à vivre pour un gardien. Mais il se remet à chaque fois en question. Et puis c'est important aussi pour devenir un grand gardien. Il l'est pas encore. C'est un gardien qui progresse, qui fait de très belles choses à Rennes, mais qui n'est qu'à Rennes et qui, s'il veut aujourd'hui passer un cap, devra être encore plus régulier. Mais déjà, c'est un bon garçon. C'est un bon garçon et c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'il doit faire pour progresser.
Voilà. Bon, là, vous nous aurez compris, chers auditeurs, on est content que Rennes soit à ce niveau-là. C'est bon pour la Ligue 1 et il faut savoir se contenter de ce qu'on peut avoir. Merci d'avoir été là. C'était un marathon, on avait beaucoup de sujets, mais ça a été rythmé. On retrouve la dame demain, on l'a dit, pour double dose. Il y aura 15h10 temps universel et 21h10 temps universel pour revenir sur le Classico, évidemment. Barça, Real. Bonne fin de journée. Priorité santé.